Juliette Rangeval.
Bonjour, cap sur Krk en Croatie. Cette petite île de l'Adriatique vit du tourisme, 19 000 habitants à l'année, 10 fois plus l'été, et sur la côte, c'est une aubaine pour les agriculteurs qui, sans cela, ont bien du mal à s'en sortir. L'agrotourisme à Krk, c'est un reportage de Dominique Bayard.
Sur cette île de la mer Adriatique, l'agriculture ne connaît pas la crise. Les fermiers croates de l'intérieur ont été asphyxiés par l'ouverture des frontières. En revanche, ceux de la côte s'en réjouissent, à commencer par les vignerons.
C'est le Zlatina, un cépage typique de l'île de Krk. Oui, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt. Oui, le vin blanc typique, c'est celui qu'on a le plus planté, parce qu'il a le plus grand succès commercial, ce Zlatina. Donc on a 3 hectares ici, et environ 30 hectares à Barska, dans notre nouveau vignoble.
Tony Katunar travaille en famille. Son père, Ivan, a abandonné le commerce des logiciels pour se consacrer au vin.
On a commencé au moment de l'indépendance de la Croatie en 1991. On est parti quasiment de rien. En Europe, personne ne savait qu'il y avait du vin en Croatie. Et maintenant, on se fait connaître grâce aux visites guidées, aux gens qui viennent goûter. C'est comme ça qu'on a prospéré petit à petit.
Aujourd'hui, 60% de leur production est écoulée sur place, grâce aux touristes.
L'objectif, c'est de vendre le maximum sur place.
C'est plus facile et tu peux demander un meilleur prix. C'est toujours mieux de vendre à sa porte. Et puis les touristes veulent goûter quelque chose d'ici, ils veulent du local. Ils ont un niveau de vie plus élevé, alors ils sont prêts à acheter.
La plupart de nos hôtes sont de l'Union européenne, même nos anciens frères, les Slovènes, et aussi les Italiens, les Allemands, les Autrichiens. Et ce sont aussi des consommateurs qui nous donnent une bonne opportunité de moderniser notre agriculture.
David, qui habite le village voisin, tire lui aussi l'essentiel de ses revenus du tourisme. Son trésor, l'huile d'olive, rendue populaire par une appellation d'origine protégée.
On a l'habitude de dire que l'olive est un peu comme une mère, que tu peux toujours revenir la voir après une longue absence et que malgré tout, elle continuera à te couvrir de cadeaux. Disons qu'on est ici sur une terre typique de l'île. Vous voyez, les gens doivent extraire des montagnes de grosses pierres pour dégager de la terre, juste pour planter les arbres.
Comme 80% des agriculteurs croates, David exploite moins de 10 hectares, 3 hectares exactement, hérité de sa famille. Il aimerait juste doubler sa surface pour en vivre décemment, mais...
La terre, spécialement sur l'île, est chère. Donc en ce moment, on attend que l'État mette en vente ses parcelles, ce qui est le moyen le plus rentable d'accéder à la terre. Vous pouvez aussi louer à l'église, qui est un gros propriétaire foncier. Mais c'est une option par défaut. En général, on attend de nouvelles terres de l'État.
La hausse du foncier, c'est la rançon du tourisme. Une manne qui a aussi son prix, selon Tony.
Ah oui, les revenus augmentent. Les prix de l'immobilier ont grimpé, donc les gens ont l'impression d'être plus riches. D'un côté, c'est plus facile. De l'autre côté, le niveau général des prix a augmenté. C'est le mauvais côté. Parce que pour les agriculteurs, la terre est plus chère qu'à l'intérieur. Peut-être 20 fois plus chère. Et par ailleurs, la main-d'œuvre est devenue rare et bien plus chère.
La famille Katunar cherche à développer des vins plus exigeants avec son nouveau vignoble. Cette année, le Festinum fait partie des nouveautés. Ils se sont inspirés des méthodes employées au Moyen-Âge par les moines pour fabriquer et commercialiser ce nectar.
C'est un moyen d'éviter la paperasse exigée pour les labels bio. Et puis, il y a une autre dimension. Selon les moines, le gars qui travaillait dans la vigne devait gagner assez pour nourrir sa famille. Donc ça passe par des revenus plus élevés et donc un vin plus cher. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire du vin comme c'était fait à l'époque en lui donnant un prix plus élevé. Et si ça marche, une partie de l'argent retournera aux travailleurs.
L'agrotourisme à la fois commercial et équitable, c'est le nouveau champ exploré par les cultivateurs de Krk. Un bon point pour l'agriculture croate, mais pas vraiment encore la solution pour rendre la souveraineté alimentaire au pays tout entier.
Le goût amer de la tomate cerise italienne. Dans les champs du sud de l'Italie, ce sont les ouvriers agricoles roumains qui travaillent la terre, souvent dans des conditions misérables. La région de Raguse produit la moitié environ des légumes de serre du pays, et en particulier ces tomates cerises que l'on retrouve ensuite dans les supermarchés de toute l'Europe. Pour les récolter, entre 10 et 12 000 travailleurs sont mobilisés pendant toute la saison. Ce sont essentiellement des étrangers dont les conditions de travail se dégradent depuis près de 10 ans. Un reportage de Cécile Debarge.
Le vent s'est levé au-dessus des serres de la baie d'Akaté qui étirent leur toile grise et blanche du sud de Raguse jusqu'à la mer. Le village de Marina di Akaté se trouve au milieu de ces champs qui semblent infinis. C'est là que la Caritas, l'association caritative de l'Église catholique, a sa permanence hebdomadaire pour les travailleurs des serres. Alors que certains sont venus chercher des vêtements, Emiliano Amico enregistre les nouveaux arrivants.
Alors attends, je vais te dire d'où ils viennent. 54,3%, soit 770 personnes viennent de Roumanie. Ensuite, on a la Tunisie avec 23%. Ensuite, le Maroc, l'Albanie avec 97 personnes et 77 Italiens.
Au total, 1419 travailleurs des serres sont venus leur demander une aide, essentiellement pour des produits de première nécessité ou des visites médicales. La proportion de travailleurs roumains a explosé en 2007 avec l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Et depuis leur arrivée, les conditions de travail ont souvent empiré. Quelques tables plus loin, Dario Biazzo est juriste. Il fournit une assistance juridique aux travailleurs.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas inscrits à la mairie, ce qui signifie que souvent, ils n'ont pas de contrat, qu'ils squattent des maisons. On n'a aucun moyen de régulariser leur situation. À partir du moment où on arrive à les faire enregistrer à la mairie, ça leur ouvre des droits. Mais s'ils ne le font pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils vivent comme des fantômes.
Au quotidien, cela veut dire qu'il est impossible de savoir précisément combien ils sont, qu'ils vivent dans des conditions souvent indignes, isolés, hébergés dans des tentes ou des habitats de fortune à l'intérieur des serres ou des terres agricoles. Avec près d'une centaine d'enfants non scolarisés et qui travaillent parfois dans les champs pour 15 euros par jour. Difficile de leur parler, beaucoup refusent de s'exprimer. Christiane a une situation un peu meilleure que nombre de ses collègues originaires de la région de Bucarest en Roumanie. Il tient dans ses mains un contrat de travail que Michele Milili, syndicaliste à l'USB, l'aide à déchiffrer. Christian a un contrat de 102 jours de travail. En réalité, il en fait plus du double. Il travaille d'octobre à juin. Une situation courante pour Emanuela Borelli, chef de projet dans la région pour l'OIM.
On parle dans ce cas de travail gris. C'est la situation la plus répandue. Il y a un contrat, mais il ne correspond pas du tout au travail qui est bel et bien réalisé. Et souvent, après quelques mois, on se rend compte que les salaires ne correspondent pas non plus à ce qui a été écrit sur le contrat, qu'on a promis de mettre les documents à jour sans que ce soit fait pendant des mois. Le tout avec des salaires de 25 euros pour 8 heures de travail au champ dans des conditions extrêmement pénibles.
Mais rares sont les travailleurs qui osent protester, explique le juriste de la permanence Dario Biazzo.
Selon les accords nationaux, ils devraient gagner au moins 58 euros par jour. Le problème, c'est que comme c'est l'usage, s'ils dénoncent cette situation, ils peuvent perdre leur emploi. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de négocier avec les employeurs la question du salaire et des conditions de travail.
Récemment, une loi a été votée sur l'organisation du travail dans les serres et avec elle, les contrôles de police se sont intensifiés. Insuffisant, estime Michele Milili, syndicaliste à l'USB.
Les propriétaires des serres savent bien qu'il y a peu de risques d'être contrôlés, parce que là on parle de milliers et de milliers de petites entreprises. Vraiment, la probabilité est infime.
De nombreux employeurs se défendent en dénonçant les tarifs dérisoires proposés pour leurs marchandises. L'essentiel du marché étant occupé par des petites entreprises souvent familiales, elles sont souvent incapables de rivaliser avec les coopératives.
Le problème du coût du produit, du manque de transport approprié, d'un système de récolte approprié, ça crée une crise économique pour les employeurs. Mais ça ne peut pas justifier que l'employeur baisse les salaires pour rentrer dans ses frais.
La migration des travailleurs roumains est souvent très temporaire et rend difficile la bataille pourtant nécessaire pour améliorer leurs conditions de travail. Souvent, les membres de la communauté conçoivent leurs 4 ou 5 années de travail en Italie comme un sacrifice nécessaire, explique Vincenzo La Monica.
Beaucoup nous disent qu'en Roumanie, un professeur, un infirmier gagnent environ 600 euros par mois. Ici, sans aucun diplôme, des personnes qui viennent travailler dans les serres peuvent gagner près du double, notamment si c'est un couple, le mari et la femme. Ça reste très avantageux pour eux. C'est pour ça que c'est difficile de faire émerger le problème.
Aujourd'hui, les travailleurs d'Europe de l'Est doivent faire face à la concurrence de travailleurs encore plus précaires, encore plus vulnérables qu'eux, les migrants. La journée de travail pour les demandeurs d'asile hébergés dans les centres d'accueil est généralement rétribuée entre 15 et 20 euros, soit la moitié des autres travailleurs.
Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé.
fin d'une époque pour les campagnes irlandaises avec la fermeture de NOC Mariage Introduction. Ce service de rencontre proposé par l'Église existait depuis 50 ans, mais aujourd'hui il ne parvient plus à faire face à la concurrence, Julien Lagache.
Après 7 ans passés à répondre au téléphone et à jouer les cupidons, Leona Connery se dit triste de devoir raccrocher. La secrétaire de NOC Marriage Introductions avait même encore 160 demandes de gens en quête d'amour dans ses tiroirs. Elle les a appelés personnellement, un à un, pour les informer de la fin imminente du service. Certains candidats se sont dit prêts à payer plus que les 200 euros de frais annuels pour rester dans ces fichiers. Mais la baisse continuelle du nombre d'inscrits et la concurrence des sites de rencontres ou applications mobiles ne le permettaient plus. Il était donc temps de tourner la page pour le père Stephen Farrager, directeur de NOC Marriage, institution créée en 1968 par le père Michael Keane dans ce nord-ouest irlandais déserté alors par une vague d'émigration massive. Faute de moyens de communication, le service se voulait un trait d'union entre personnes de différentes paroisses pour lutter contre la solitude et l'isolement. Vestige de ces rencontres rurales, le formulaire d'inscription, toujours envoyé par la poste avec une photo grand format, on y trouve une case à remplir, salaire, revenu ou taille de la ferme. Depuis, NOC Marriage Introductions a débarqué sur Facebook et Twitter, insuffisant pour rester dans le coup, même si les demandes reçues le plus récemment proviennent en majorité de gens de 30 à 50 ans qui ne cherchent plus spécialement à convoler en juste noce. L'an dernier, un seul couple formé grâce au bureau matrimonial s'est fiancé, aucun ne s'est marié. Une femme nous a écrit en précisant que le mariage n'était pas son objectif en soi, mais qu'avec le prix actuel de l'électricité, un peu de compagnie pourrait réduire sa facture, raconte le père Steve and Farrager.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
La gestion et la sécurité de l'aéroport de Tirana sous le feu des critiques après le braquage spectaculaire survenu en pleine journée dans l'aéroport albanais. Les explications à Tirana de Louis Seyé.
C'est une scène qu'on croirait tout droit tirée d'un film d'action. Il est 15h un mardi quand un fourgon de l'inspection fiscale débarque sur le tarmac de l'aéroport de Tirana. Des hommes armés de Kalachnikov sortent du véhicule et mettent en joue des convoyeurs de fond qui chargent un avion en partance pour Vienne. Les trois hommes s'emparent du butin, mais l'un d'entre eux est abattu par la police dans la course-poursuite. Selon les médias locaux, le montant dérobé atteindrait 10 millions d'euros. Cet événement spectaculaire a relancé la polémique sur la sécurité de l'aéroport Mère Teresa. Il faut dire que depuis 2015, ce ne sont pas moins de 4 braquages qui ont eu lieu à proximité du seul aéroport du pays. Le gouvernement albanais a réagi rapidement à la polémique naissante en accusant le concessionnaire chinois en charge de l'aéroport jusqu'en 2027. Le premier ministre albanais Edi Rama a assuré qu'aucune justification ne serait acceptée et il a annoncé l'envoi de l'armée afin que l'État reprenne le contrôle de la sécurité de l'aéroport. Dans un communiqué, le concessionnaire chinois a récusé ses accusations en parlant de désinformation et il a affirmé avoir respecté toutes ses obligations. La concession de l'aéroport de Tirana a régulièrement fait débat depuis sa privatisation en 2005. Dans le viseur des critiques, des taxes particulièrement élevées et le monopole de l'espace aérien du pays accordé aux concessionnaires. En effet, ce n'est qu'en 2016 que le gouvernement et les actionnaires de l'aéroport ont trouvé un accord pour mettre un terme à ce monopole. Un deuxième aéroport devrait ainsi ouvrir ses portes prochainement dans le nord-est du pays. Les autorités espèrent ainsi attirer des compagnies à bas coût, encore peu présentes en Albanie.
J'étais mieux à l'Est. Sans toi pour me corrompre, j'étais mieux à l'Est.
Catherine Roland part à la recherche d'un pays disparu en 1990, l'ex-République démocratique d'Allemagne. À travers les pages du livre de l'historien Nicolas Offenstadt, le pays disparu sur les traces de la RDA. C'est paru chez Stock. L'ancienne Allemagne de l'Est a laissé peu de traces aux grandes dames de ses habitants. 30 ans après la réunification, l'historien restitue ce passé est-allemand à travers les friches et les ruines.
En faisant l'unification de l'Allemagne, on n'a pas fait une unification en réalité. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui a absorbé et qui a transformé complètement l'Allemagne de l'Est. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, toute la culture socialiste, toute la culture du travail socialiste, toute la culture du loisir socialiste a complètement disparu. Alors évidemment, il y a des choses que les gens ne regrettent pas, mais il y en a aussi qui regrettent, parce que là-dedans, il y avait la solidarité, il y avait beaucoup disent qu'ils avaient l'habitude de faire beaucoup plus de choses ensemble, il y avait un lien social plus intense, on allait au théâtre. Donc il y a énormément de manières de vivre ensemble qui ont aussi disparu avec la RDA. Et ça, évidemment, ça pose des questions aujourd'hui.
Oui, il y avait aussi le plein emploi, on l'oublie souvent.
Bien sûr, les gens travaillaient et puis surtout, ils étaient beaucoup plus protégés socialement puisque le socialisme de la RDA est évidemment un socialisme autoritaire, un socialiste répressif, mais c'était aussi un socialiste qui protège. Il y avait la main gauche et la main droite. Hein. C'était le fait que même quand vous n'étiez pas adapté à votre emploi, on vous en trouvait un autre et puis on vous renvoyait pas. C'était évidemment les soins et l'école gratuite. Donc oui, c'est tout un monde qui disparaît. Et ça, ça a été un choc hein, pour les Allemands de l'Est après 1990. Alors, ils étaient sans doute très désireux de découvrir la consommation de l'Ouest, de découvrir la possibilité d'achat. Mais ils ont vu aussi qu'ils perdaient énormément de ce qui avait constitué leurs identités, leur manière de vivre, pour le meilleur et pour le pire.
Vous avez mené un travail d'historien d'abord classique en fouillant les archives, bien sûr, mais vous êtes aussi rendu dans les lieux abandonnés, les usines, qui sont devenues de véritables friches, en fait.
Je suis allé voir pourquoi est-ce que ces lieux étaient abandonnés, qu'est-ce qu'on y trouvait à l'intérieur. Et là, évidemment, les surprises ont été multiples. Vous trouvez d'abord des objets. Et moi, j'ai trouvé intéressant d'essayer de reconstituer l'histoire de ces objets. Donc, j'en ai ramassé. J'ai essayé de comprendre dans quel environnement vivaient les gens et ce que ces objets nous racontent sur l'histoire de la RDA. Mais il y a aussi un passage sur les archives. Alors, du personnel, parfois du Parti communiste dans l'entreprise, parfois des archives médicales. Donc, il y a un monde documentaire pour raconter l'histoire des Allemands au XXe siècle, d'ailleurs.
Oui, mais vous en profitez d'ailleurs pour dresser de véritables portraits juste à partir de ces documents écrits.
Oui, j'ai décidé à partir de certains d'entre eux que j'avais vraiment ramassé par terre hein, dans les usines de raconter la vie. J'ai raconté la vie d'un chauffeur de Schwerin, hein, du nord de l'ex-RDA, et j'ai raconté l'histoire notamment d'une comptable, hein, Heidrun, qui elle était de Saxe. Donc vous voyez, à partir de ça, j'ai montré que des archives abandonnées, c'est pas simplement des bouts de papier dans la boue, c'est aussi un potentiel pour l'historien.
La RDA, on la retrouve aussi dans les brocantes. D'ailleurs, vous dites hein, que c'est un pays de brocantes désormais.
Il faut imaginer ce qui s'est passé dans les années 90 et post-90. Tout a été délégitimé. Tous les objets RDA paraissent pas concurrentiels par rapport à ce qui se fait à l'Ouest. Et donc, du coup, on abandonnait tout ce qui était un peu ringard, tout ce qui n'était considéré comme pas beau, symbole du socialisme. Et donc, on pouvait récupérer, effectivement, dans la rue, beaucoup de choses, hein, dans le post-90 et encore aujourd'hui.
En même temps, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une espèce de retour à la mode de la RDA, des barres chocolatées, des cigarettes de l'époque, c'est un peu kitsch. Est-ce que ça nourrit pas aussi une forme d'ostalgie, la nostalgie de l'Est?
Il y a aussi, évidemment, une nostalgie particulière, hein, c'est que, évidemment, comme la biographie de beaucoup de ces Allemands de l'Est a été très dévaluée, que c'est aussi le temps de leur jeunesse, hein, il y a un revival qu'on voit depuis des années de produits de l'Est. Et d'ailleurs, certains ont été recréés. Il n'y a pas de nostalgie au sens où on voudrait revenir hein, aux produits de l'Est, à la vie à l'Est. Mais par contre, hein, il y a une appréhension de son passé qui est un peu plus complexe.
Comment ils vivent vraiment, ces ex-Allemands de l'Est, cette disparition? Le fait qu'il y a tout un pan de leur passé qu'on nie désormais.
Vous voyez, c'est quand même assez dur à supporter, cette idée que tout ce qu'on a fait l'a été sous le sceau d'un socialisme autoritaire et inefficace. Et donc, du coup, effectivement, les Allemands de l'Est ont une forme de fragilité, à la fois symbolique et personnelle, puisque dans l'Allemagne contemporaine, il y a un peu l'idée que tout ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, ben, c'était encore une fois l'échec économique, la répression politique. Or, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui n'était pas un opposant en Allemagne de l'Est, quelqu'un qui travaillait correctement, pouvait tout à fait avoir une vie qui lui plaise.
D'autant que du point de vue de l'économie, hein, il y a vraiment deux Allemagnes. En Allemagne de l'Est, on constate un taux de chômage malgré tout plus élevé. Économiquement, cela va moins bien.
Les élites en général en Allemagne sont celles de l'Ouest. Et même à l'Est, les élites sont celles de l'Ouest. Donc il y a aussi l'impression d'être dominé, voire colonisé par l'Ouest. C'est quelque chose qui est très vécu. Et l'autre, vous avez raison, c'est que les salaires sont très différents. Un certain nombre de catégories professionnelles se sentent encore victimes d'injustice depuis l'unification. Et puis il y a aussi un sentiment qui est très important à comprendre. Donc vous voyez, la perte démographique a été colossale et a eu des conséquences très importantes. Hein. Or qu'est-ce que ça a pour conséquence? L'abandon des services publics qui avaient été construits pour un monde qui était quand même plus dense. Quand la première police ou le premier médecin est à 30 ou 40 kilomètres, ça crée un sentiment aussi de faiblesse et de précarité qui est très vécu. Et ce sentiment-là, évidemment, l'AFD sait l'exploiter, l'extrême droite sait l'exploiter en disant, ben oui, nous, on va vous redonner hein, une forme de fierté, on va vous redonner une dignité.
Un souvenir de l'ancienne Allemagne de l'Est, conséquences pour l'Allemagne d'aujourd'hui avec l'historien Nicolas Offenstadt et Catherine Roland. Le livre de Nicolas Offenstadt, Le pays disparu sur les traces de la RDA, est publié chez Stock. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous suivez, vous nous réécoutez sur les réseaux sociaux et sur le podcast RFI.fr. À bientôt.